Yes.
Good afternoon.
Eh bien, bon après-midi à tous les participants à Singapour et bonjour à toutes les personnes qui sont à distance. Je m'appelle Lucy Johnson et j'aimerais vous souhaiter la bienvenue sur cette séance qui va nous parler donc des services d'annuaire et d'enregistrement. Nous sommes à Singapour le lundi. Veuillez s'il vous plaît indiquer votre nom. Nous avons des interprètes qui travaillent en français, en espagnol et en chinois. Veuillez donc s'il vous plaît indiquer votre nom en ce lundi 24 mars 2014. Ceci pour la transcription. Veuillez parler lentement et clairement pour qu'il y ait une bonne interprétation et transcription des débats. Merci beaucoup, Suzy. Nous allons combiner une séance, Olly Reich au micro. Nous allons parler de l'inscription des données. On devait parler de confidentialité dans le cadre du RAA de 2014. C'est un groupe de travail qui a été formé pour apporter plus à cette spécification avec Carlton. Nous avons débattu de cela et des nombreux problèmes qui proviennent de cette spécification, de ces services d'annuaire et d'enregistrement. Cela a trait à Whois, aux données Whois, qui vérifient les données Whois, dans quelles circonstances sont-elles analysées, et ce sont les mêmes problèmes dont on parle dans le contexte du groupe de travail sur le proxy, des problèmes liés au proxy et à la confidentialité. Donc nous allons commencer avec nos trois intervenants qui vont nous parler un petit peu plus de problèmes de proxy, de confidentialité. Et ensuite, nous allons passer à la deuxième question à traiter. Donc pour ces trois premiers intervenants, ensuite nous aurons une petite intervention. Nous avons James Bladel qui va nous parler. Vous avez un titre? Oui, je suis de GoDaddy, je suis des services de GoDaddy. Cathy Kleinman. Donc, Cathy Kleinman est une experte en confidentialité, juriste. On peut toujours faire confiance aux juristes et aux avocats, n'est-ce pas? Et je suis cofondatrice et je travaille à Whois depuis très longtemps, depuis trop longtemps, dirais-je même. Donc, Olly Reich au micro, oui, moi c'est au moins depuis 2009 que je travaille à cela, et nous avons une autre version de Steve, peut-être plus agréable. Oui, c'est un Steve qui a retiré sa barbe. Donc je sais que Steve nous écoute, donc attention à ce que nous disons. Donc c'est Paul McCrady qui est à mes côtés. Donc oui, on va attendre un petit peu pour d'autres présentations. Nous allons commencer avec le débat qui est en rapport avec ces spécifications sur le RAA 2014 et en relation avec cela, oui, nous avons posé la question suivante par rapport à cette spécification. Dans le cadre du RAA, ces services liés au proxy et à la confidentialité doivent être accrédités. Une des premières questions, c'est que signifie le terme accréditation? Qu'est-ce que cela devrait regrouper? Qu'est-ce qui devrait être demandé? Et est-ce que les exigences doivent être différentes selon les services liés au proxy ou à la confidentialité dans le cadre du RAA 2014. Donc, dans le cadre de cette question, dans quelles circonstances, si elles existent, les coordonnées du titulaire devraient-elles être révélées à un groupe spécifique? Quel groupe spécifique? Ou, d'une manière plus générale, et c'est pour cela qu'avec Carlton, nous avons rebondi un petit peu là-dessus, il y a une autre question, c'est que signifie la vérification? Est-ce que ça a une, dans le cadre du RAA 2014, une signification précise? C'est de cela dont on va parler. Est-ce que ce processus s'applique à la vérification? Qui est chargé de cela? Donc je lance toutes ces questions et je donne maintenant la parole à James Bladel. Oui, j'aimerais revenir un petit peu en arrière, ce pourrait être utile, me semble-t-il. Donc, vous avez tout à fait raison, dans le RAA 2014, nous demandons de se conformer aux questions de confidentialité pour les services qui sont offerts par les prestataires, et j'aimerais demander au personnel de l'ICANN, il y a certains qui sont présents ici, dans le processus de négociation, vous vous rappelez de cela, on nous a parlé de ce processus d'accréditation, on nous l'a indiqué, et on a répondu que ce n'était pas approprié de donner les détails à l'avance. Il fallait en débattre beaucoup plus. Il fallait que la communauté en discute et en débatte. Et donc, j'ai l'honneur, je ne sais pas si c'était un honneur, d'être l'auteur de cette spécification temporaire qui, à mon avis, donne des critères de base, des exigences de base pour un opérateur responsable dans le cadre de la confidentialité. Nous avons des accords formels, j'en suis bien conscient. Nous indiquons les termes de service, ils sont clairs. Nous avons un point de contact. En cas d'abus, nous avons les services de police, le cas échéant. Et nous n'avons pas un processus standardisé, mais au moins un processus clair, ouvert, communiqué. Lorsqu'il y a des violations, des abus, on peut annuler le nom, on peut annuler donc l'inscription ou annuler le service. En fait, réinsérer le nom de la personne dans le cadre du proxy. Donc, est-ce que c'est bilatéral ou bien est-ce que c'est la personne qui se plaint uniquement ou bien est-ce que c'est public? Est-ce que l'on révèle les noms de toutes ces personnes? Ce sont des questions qui se posent. La publication, voilà le terme que je cherchais. Oui, je crois que les questions qui sont soulevées sont absolument importantes et le groupe de travail doit y réfléchir. Je crois que c'est quelque chose qui va permettre d'établir des paramètres de base pour les opérateurs. Ça paraît très technique, mais nous avons une spécification qui doit arriver à expiration, qui n'est pas permanente. Il y a beaucoup d'inertie, vous le savez parfois, à l'ICANN. Et peut-être qu'en 2030, on utilisera toujours cela, même si c'est seulement temporaire, mais cela se réfère à une affiliation. Et il est possible, et ça dépend du processus et du programme d'accréditation, ça dépend que des services non accrédités pourraient utiliser, sans connaissance de l'opérateur, ces services de registraire. Et il faut que l'on sache bien ce que nous pouvons contrôler en tant qu'opérateur. Je crois que c'est une ligne de base. Nous sommes des vétérans du WHOIS. Cela provient des problèmes de WHOIS. Avec Cathy, nous y avons beaucoup travaillé là-dessus, là, plusieurs années déjà. Et c'était une recommandation solide, je crois, que nous avons fait pour l'ICANN, accréditer ces services. Accréditer ces services pour que ils soient chapeautés. Vous pouvez utiliser quelques termes que ce soit, mais c'est pour qu'ils fassent partie du système et que tous les opérateurs qui existent dans cette sphère soit accrédité pour qu'on ait des services d'un niveau plus élevé, pour qu'on ait des personnes, parce que soyons honnêtes, il y a des personnes qui ne sont pas au niveau et je ne crois pas qu'ils devraient rester dans cet espace, dans cette sphère et rester des opérateurs. C'est pour cela que nous pensons que nous devrions avoir un programme d'accréditation. Oui, je suis d'accord avec James. On travaille depuis longtemps au WHOIS. C'est Cathy Kleiman au micro. J'aimerais vous remercier avec Carlton d'avoir décidé que nous discutions de ce sujet. Moi, ça fait plus de 18 ans que je représente certains opérateurs. J'ai représenté des groupes de droits de l'homme également. J'ai représenter beaucoup de personnes en tant que juriste, en tant qu'avocate, des gens qui luttaient pour la liberté de religion, pour la liberté d'expression. Et les données WHOIS jouent un rôle très important parce que on partage des idées en ligne. Et si l'on révèle le nom et la localisation de ces personnes, ils peuvent être harcelés, intimidés ou pire. Donc vous voyez. Donc les données WHOIS nous ont toujours beaucoup préoccupés parce que aux États-Unis notamment, nous avons des droits à la confidentialité avec les droits également à la liberté d'expression aux États-Unis. Vous n'avez pas à donner votre adresse lorsque vous vous adressez, lorsque vous communiquez votre opinion. Vous pouvez le faire d'une manière anonyme. Donc pour ces processus d'accréditation, l'accès. Je crois que l'accès à ces services doit être disponible à toutes les catégories de personnes s'enregistrant, des personnes, des organisations, même des petites entreprises. Je crois qu'on utilise ces services de proxy, ces services de confidentialité. Ça peut prendre plusieurs mois avant d'avoir un nom de domaine, avant de lancer véritablement. Donc ils ne veulent peut-être pas que le marché ou bien la bourse, ou bien les créditeurs soient au courant de leur travail. Donc, l'accessibilité, avoir un processus légal, est-ce que nous allons révéler, est-ce que nous allons avoir le droit de révéler, est-ce qu'on va publier, avoir le droit de publier, d'avoir une publication mondiale de ces données, c'est un problème important. Ce qui est illégal dans un pays n'est pas illégal dans un autre. Dans chaque pays est différent. Donc, dans certains pays, il est illégal, par exemple, d'avoir des publicités comparatives. On n'a pas le droit de faire la publicité comparative dans beaucoup de pays du monde, alors qu'aux États-Unis, on le peut. Aux États-Unis, c'est tout à fait légal, cette publicité comparative. Donc, demander les données d'une entreprise, ce n'est pas illégal. Un exemple pour la Chine, qui fait partie d'un groupe Falun Gong, Falun Gong de ce groupe. C'est une grande question qui se pose. Il faut trouver des remèdes, quelque chose qui permet de remédier aux solutions, aux problèmes, avec une solution rapide. Les prestataires de services de trouver des solutions créatives et il faut être en mesure de retirer un nom de domaine plutôt que de donner l'identité des personnes qui ont enregistré ce nom de domaine. Donc, c'est quelque chose qui peut être invoqué. Cela fait partie du processus juridique et du droit à avoir une représentation, par exemple. Donc, il y a beaucoup de problèmes légaux qui se posent. Et Wendy Seltzer, je dois le dire, a lancé ce concept. Donc, c'est les trois principes dont je voulais vous parler un petit peu au niveau commercial. L'accès, le processus et avoir la possibilité de remédier aux problèmes. Oui, merci beaucoup, Cathy Kleinman, de cette présentation. Ce n'est pas Steve, je l'ai dit tout à l'heure, mais nous avons Paul McGrady. Paul McGrady, vous avez la parole. Oui, merci beaucoup. J'apprécie beaucoup que vous nous ayez invités aujourd'hui pour dire quelques mots. C'est un groupe de travail important. Je crois que vous êtes un groupe avec des personnes qui ont des points de vue vraiment très marqués, des opinions très fortes. Nous nous respectons en tout cas, même si nous ne sommes pas toujours d'accord, et nous avons des principes de base qui doivent être respectés et sur lesquels nous sommes d'accord. Je représente depuis peut-être pas 18 ans, mais un petit peu moins, mais durant une longue période, je représente différentes marques et je travaille à la protection des consommateurs. Parce qu'il y a beaucoup de failles qui existent dans le système. On a de très bons clients, mais je crois qu'en fin de compte, lorsque on a les marques commerciales que l'on défend, on défend en fin de compte les consommateurs avec les différents brevets qui sont protégés par nos services juridiques également. Donc, à la base, nous pensons que pour que ce processus d'accréditation fasse sens et protège les consommateurs. On a déjà mentionné ces points. Des termes, des conditions de participation, ça doit être publié, les obligations, les conséquences en cas de violation pour les clients. Si on ne donne pas de bonnes informations de contact, obligation de ne pas utiliser les noms de domaine pour des activités illégales, piratage, attaque sur la propriété commerciale et les marques de fabrique. Donc, servir les consommateurs, des procédures sur les délais en temps pour fournir les informations, pour publier toutes les informations de contact des personnes. C'est ce qu'on appelle la publication, la révélation de toutes ces informations et de toutes ces coordonnées, et des procédures pour vérifier et collecter les données de contact, et publication, ça n'a sens que si les données sont solides, et respect des instruments de mesure, de l'ICANN, qui font partie de ce processus, de ce programme dont on a longuement parlé. Je crois que le débat maintenant, qui est important, c'est comment équilibrer tout cela, faire entrer tout cela, le pour et le contre, dans la balance, et s'assurer qu'on garde tout cela à l'esprit, qu'on soit opérateur de registre ou titulaire de nom de domaine. Quelle va être la mise en place de tous ces contrats? Comment cela va se faire d'une manière très pragmatique. Donc, voilà ce que nous pensons au niveau de l'IPC. Et je serais très heureux de continuer le débat. Oui, merci beaucoup, Paul. Et la personne qui ne pouvait pas être ici avec nous parce que son ministère voulait lui parler, Paul Linninghu, qui est, j'ai oublié son titre, mais il est policier et il travaille à la sécurité informatique, et son gouvernement s'intéresse beaucoup à ces questions, au problème de l'AIANA notamment. ce qu'il voulait nous dire, c'est parler de tests, des vérifications qui devaient être plus élevées que le RA 2014, parce que si quelqu'un n'est pas là dans le public, si vous n'êtes pas, vous n'allez pas avoir une vérification à un haut niveau, vous n'allez pas être en mesure de contacter ces personnes ou de s'assurer de la validité de ces coordonnées. Donc je suis désolé que cette personne n'est pas là. Il n'est pas dans la salle. Il m'a indiqué un petit peu ce qu'il pensait. Et je voulais simplement indiquer que les forces de l'ordre s'intéressent beaucoup au problème de la validité de ces coordonnées. Et je ne sais pas si... James, vous voulez reprendre la parole, oui ? James Bladel ? Oui, j'aimerais me faire l'écho de ce qui a été dit. Et je crois que il faut dire pourquoi ces enregistrements doivent être sujets à un standard plus élevé, parce que si on a un intérêt que l'on a indiqué, par exemple pour un numéro de téléphone qui n'est pas dans l'annuaire, eh bien là, on va peut-être se pencher un petit peu plus là-dessus. Qui est-ce qu'on essaye d'attraper, hein, dirais-je ? C'est un aparté un petit peu, mais ça fait 3 mois que l'on parle de vérification et je peux vous dire qu'il ne faut pas aller trop vite parce que la situation n'est pas encore très claire. Il faut clarifier les choses. Nous avons les problèmes TAS que nous avons eus. On a eu des problèmes informatiques. On ne veut pas que ça se passe de la même manière avec le RA 2014. On veut que ça soit plus solide. Mais au niveau des registraires, des bureaux d'enregistrement, nous étions un petit peu inquiets de la situation, de tous ces problèmes qui se posaient. C'est pour ça qu'on veut serrer un petit peu les problèmes à l'avenir. Assurons-nous que ça fonctionne avant de décider quoi que ce soit. Comprenons bien pourquoi on a besoin de ces coordonnées solides, de ne pas avoir ces noms un peu suspects qui existent pour le moment. Eh bien, nous allons introduire Carlton et ses orateurs. Carlton Samuels, qui est membre du groupe de travail d'experts, EWG. Merci beaucoup, Madame Holly Reich. Je m'appelle Carlton Samuels et je suis membre de ce groupe de travail d'experts. Et nous pensons à la nouvelle génération des services de données, d'annuaires et de répertoires. Et nous avons des problèmes qui se posent à nous dans le cadre du contrat d'accréditation du bureau d'enregistrement. Ça fait 18 mois qu'on y travaille, qu'on y pense, qu'on y réfléchit de très près pour développer ces politiques en ce qui concerne notre annuaire, la validité des données, tous les problèmes qui se posent aujourd'hui même. Nous avons pensé que on devait travailler ensemble, que les deux groupes devaient se rencontrer, travailler ensemble et vraiment réfléchir à la fois au problème du WHOIS et au problème de proxy de confidentialité. Donc je serais très heureux de vous présenter quelques-uns de nos orateurs qui vont prendre la parole. Michele Nilon, vous le connaissez bien. Il est at large et représente beaucoup d'enregistrements, beaucoup de bureaux d'enregistrement qu'il représente. Il est très célèbre. Oui, je vais vous dire. Michele Nilon dirige beaucoup de débats, c'est quelqu'un de très important pour nous. Stéphanie Perrin, qui est canadienne et qui connaît bien les questions de confidentialité. Rod Rasmussen n'est pas ici, il s'occupe de sécurité informatique. Il est une entreprise sur la côte ouest des États-Unis qui fait beaucoup des services de sécurité en ligne. Et Fabrizio Vieira vient d'arriver, il est là. Eh bien, nous lui souhaitons la bienvenue et nous lui demandons de nous rejoindre autour de la table. Fabrizio, ou Fab, c'est un avocat, un juriste qui travaille beaucoup au problème de propriété intellectuelle. Et dans le groupe, c'est quelqu'un qui peut beaucoup nous expliquer certains détails. Je crois qu'il aime lancer un petit peu des débats un petit peu houleux. Non, on ne se dispute jamais, on débat toujours d'une manière vigoureuse. Je vois. Nous débattons d'une manière vigoureuse, nous sommes pratiquement toujours d'accord. Une question intéressante qu'il faut régler aujourd'hui, vous avez entendu les questions de Holly sur le terme accréditation, que signifie-t-il, quelles doivent être les exigences des bureaux d'enregistrement accrédités en ce qui concerne les services liés au proxy, à la confidentialité, et ainsi de suite. Donc nous avons pensé que nos collègues pourraient également rebondir là-dessus et effectuer quelques commentaires, nous donner leur perspective sur ce qui se passe dans leur secteur et dans le cadre du groupe de travail d'experts. Et qu'en est-il donc de ce problème lié au proxy et à la confidentialité? Je vais donner la parole à Stéphanie Perrine en premier. Stéphanie, vous avez la parole. Oui, merci beaucoup, Carlton. Je dois dire que c'est Michele qui m'a introduit à ce groupe de travail sur le proxy et la confidentialité. Donc, Michele est donc la personne qui est responsable de ces débats parfois houleux sur les différentes politiques du proxy et de la confidentialité. Et je suis vraiment surpris par plusieurs points. Au niveau de la gestion des risques, il me semble que la limite que nous avons, c'est que nous avons de plus en plus de données. Maintenant, on commence à comprendre que ces données sont personnelles, doivent donc être confidentielles. Il y a les questions de concurrence qui se posent également. J'en ai parlé dans le groupe de travail d'experts, parce que des petites entreprises veulent absolument utiliser des proxys et avoir une confidentialité pour leurs données, les données de leurs entreprises. Donc, il me semble que lorsque l'on parle de divulgation de tout cela, ne va pas dans le sens de la confidentialité des données. Donc, on a parlé de trois points principaux au AWG. Vous voulez que j'en parle un petit peu plus? Oui. Donc, il me semble qu'il y a à la base trois grands blocs d'amélioration possibles pour la confidentialité au niveau de Whois. L'accès basé sur une raison. Ça, c'est fondamental pour la protection des données. Il faut avoir une raison légitime pour avoir accès aux données. C'est pour cela qu'on doit accréditer les personnes faisant des demandes. Donc, ce n'est pas comme un club où on est invité. Même si vous faites partie des forces de l'ordre, vous devez avoir une raison pour avoir accès à ces données. C'est compliqué. C'est très complexe pour certains services qui font comprendre, qui comprennent l'analyse des nombreuses données, notamment. Il faut qu'on continue à travailler de très près à cela. Il y a les questions d'audit, de vérification des comptes. On doit savoir qui véritablement répond à ces critères. Pourquoi est-ce qu'on donne accès à ces données? Peut-être vais-je un petit peu trop vite. Oui, je vais ralentir un petit peu le débit. Et deuxième point, et c'était au même niveau que ce point existe, nous proposons donc une amélioration des critères de sécurité et de vérification pour avoir un enregistrement anonyme. Ça, c'est pour les groupes dont parlait Cathy, les groupes qui veulent être protégés. Des personnes qui ont prouvé déjà qu'ils ont un besoin de confidentialité, qu'ils puissent s'enregistrer de manière anonyme pour ne pas être harcelés, qui ont besoin de sécurité parce qu'ils pourraient être poursuivis par des par exemple, un gouvernement, un ancien conjoint, suite d'un divorce. Il peut y avoir des problèmes de ce type et il y a parfois un besoin d'anonymat qui existe pour cet enregistrement. Donc on a besoin de procédures d'accréditation, mais nous avons la question des droits de l'homme qui se pose, la question de la liberté d'expression qui se pose, qui est essentielle. Moi, j'ai travaillé dans un groupe consultatif également pour une entreprise en Europe. Ce n'est pas une question technologique qui se pose à ce niveau. La technologie est solide, mais comment mettre en œuvre les procédures ? C'est très difficile, personne ne l'a jamais fait. Donc je crois que c'est une excellente initiative, ce que nous faisons aujourd'hui. Le troisième point que je voulais aborder, et oui, absolument, c'est un point très important, je ne peux pas l'oublier. C'est un concept essentiel. En raison des questions de juridiction, qui ne sont pas les mêmes dans le monde, chaque pays a ses différentes lois. Ce que nous pouvons proposer en tant que ICANN au niveau mondial, et vous vous rappelez qu'on a parlé de cela à Buenos Aires, nous avons différentes variantes avec des règles pour les entreprises qui se sont déjà inscrites, qui sont déjà protégées. L'ICANN est une organisation à but non lucratif, ne rentre donc pas dans un certain cadre. Mais il y a des associations qui sont actives au niveau international et qui veulent transférer des données au niveau international, qui mettent en place des lignes de conduite qui sont approuvées et leurs données sont ainsi protégées par des lois. Ça, c'est le cas en Europe. Et on ne doit pas aller plus loin pour le transfert des données au niveau mondial. Donc là aussi, ça ne rentre pas exactement dans le modèle et le cadre de référence de l'ICANN. C'est un processus très complexe parce que l'on part de zéro. C'est véritablement une question, notamment aux États-Unis, une question de confidentialité, des lignes de conduite sur la confidentialité. Avec Michele, on n'est pas toujours d'accord. Au niveau de l'Europe, est-ce que l'ICANN est considéré comme un organisme qui contrôle les données ou qui traite les données ? Ça, c'est très important. Est-ce que c'est un organisme de gestion, de traitement des données ou bien un organisme de contrôle des données ? Telle est la grande question qui se pose, notamment d'un point de vue européen. Donc, oui, Stéphanie, je crois que vous m'avez convaincu, dit Michele. Très bien, vous pouvez mettre cela par écrit, s'il vous plaît. Donc même si l'ICANN n'a pas les données personnelles qu'ont les différents bureaux d'enregistrement, nous occupons des lignes de conduite. Donc, voilà les trois points que je voulais soulever et je serai très heureux de répondre à vos questions.
Merci, Steph, dit Carlton Samuels. Michele, vous avez la parole. Monsieur, oui. Et alors, donnez-nous votre avis, Michele. Non, Carlton, s'il te plaît, dit Michele. À différents niveaux, lorsque j'ai commencé à travailler dans ICANN, il y a des personnes qui ne savent pas qui tu es. Donc, tu dois te présenter, vous devez vous présenter. Michele Nylon, CEO, fondateur de Black Knight, président du groupe de stakeholders, partie prenante, membre du IWG et du EWG et différentes autres choses. Je parle en mon nom parce que sinon personne d'autre ne me soutiendrait. Et en tant qu'Européen, j'ai toujours eu des problèmes avec la façon dont ICANN gère les problèmes de confidentialité et données rouillées. Dans la plupart des codes pays, on a résolu cela. ce n'est pas quelque chose qui provoque des produits dans l'espace du code pays. C'est quelque chose qui est réglé. Il y a une série, une grande quantité de données personnelles qui sont publiées. Et les forces de l'ordre n'ont pas l'air d'avoir des problèmes. Je ne vois pas de responsables de code pays qui viennent à la CCNSO et qui se mettent en colère contre ces gens-là. Donc c'est un problème, si vous voulez, massif. Si vous avez un régime qui protège la confidentialité, alors pourquoi ICANN doit être si spécial dans ce domaine? C'est mon opinion. Dans le EWG, nous avons analysé une série d'aspects différents des données d'enregistrement de domaine, ce qui nous donne un peu plus de passé, un peu plus de base, un peu plus solide. Hein. Et on a lu ce qui a été fait sur WIS, etc. Et donc, Cathy, on nous a demandé de faire des commentaires et je dirais qu'une des choses, lorsqu'on parle de WIS dans l'espace d'ICANN, on a des souvenirs liés aux efforts concernant WIS. Il y a une série de choses dont on peut parler, mais je dirais qu'au sein de l'EWG, nous essayons de travailler sur une base selon laquelle tout ce qui a été fait doit être laissé de côté, qu'il faut recommencer à zéro pour répondre à la question que les personnes posent. Quel est l'objectif derrière tout cela? Pourquoi on fait cela? Pourquoi on a besoin de cela? Donc, à un niveau plus simple, pour qu'un nom de domaine puisse être résolu sur Internet, quel type d'éléments on a besoin? De quel type d'éléments a-t-on besoin? Et à partir de là, quels sont les autres éléments qui pourraient être nécessaires, qui pourraient être attendus lorsqu'on regarde à différentes choses? Cela nous renvoie à l'objectif dans tout ça. C'est le cadre de cette discussion qui est compatible avec les lois d'application de la loi, les lois de force de l'ordre, etc. Ce qui veut dire que l'avocat qui veut atteindre une personne qui a enfreint la loi, hein, cela ne veut pas dire que l'on ne va pas considérer les objectifs de ces personnes. Ça peut être un mauvais objectif. On en tient compte. Mais si on considère ces choses à partir de là, on a mis en place quelque chose qui pourrait être finalisé pour la réunion de Londres. Et cela sera solide et cela devrait contenir quelques recommandations claires qui, nous l'espérons, vont donner lieu à une amélioration du système général tel qu'il est actuellement. Mais ICANN a vraiment besoin d'aborder le problème de la confidentialité. Il faut faire quelque chose à ce propos tout de suite. Il faut faire quelque chose de cohérent. Il faut mettre en place un régime dans lequel le problème de la confidentialité ne retombe pas sur le bureau d'enregistrement ou sur le registre. Et les organisations corporatives ne veulent pas forcer la législation à travers un contrat. Merci, dit Carlton Samuel. Merci, Michele. Holly, vous avez la parole. Pour les personnes dans la salle qui ne le savent pas, le RAA dans sa section 3.7.3 quelque chose requiert une série de données comme par exemple les données de contact pour que ce registrant puisse devenir public. Cela a été donc modifié pour des raisons inconnues. Ça a donné lieu à une série d'attentes pour les personnes qui voudraient accéder à ces informations et cela a donné lieu à une série de difficultés pour les personnes qui ne voudraient pas. Donc on a ici un problème qui existe depuis longtemps et qui a causé beaucoup de soucis et on est en train d'essayer de voir comment on peut résoudre ce problème, comment améliorer les choses telles qu'elles sont actuellement. Oui, et j'ai essayé Voilà, c'est exactement le problème, dit Carlton Samuels. Maintenant, nous allons donner la parole à Rod Rasmussen. Mais d'abord. Donc, Rod, prenez la parole. Vous voulez que je parle de quelque chose spécifiquement? Oui, donnez-nous votre perspective sur ce qu'est le travail de du groupe d'experts. Hein? Bon, ma perspective. Fabricio Vera. Donc, pour aider ceux qui veulent m'appeler des avocats, je dirais que je suis aussi un musicien, un vendeur, etc. Et donc, par conséquent, ma perspective à propos de tout cela, je pense que tout le monde entre ici avec la promesse de travailler, de faire quelque chose, de donner un résultat dans 3 mois. Et si on est là, et on est ici donc 1 an et demi plus tard, et on n'a toujours rien, ou rien de très précis. Donc, je pense que ce groupe et n'a pas respecté ce délai de 3 mois, mais je dirais que Stéphanie a fait un très bon travail, et Michele aussi, et toutes les personnes qui sont dans le groupe pour faire part de leur expertise et aborder les problèmes. Et tout le monde au sein de ce groupe doit être orgueilleux du fait que l'on a pris notre temps. Et je pense que dans le secteur de l'industrie et du cinéma et de l'animation, c'est une production qui a mis beaucoup de temps. Je pense qu'il faudrait... Nous avons beaucoup de choses à faire à côté, et cependant, cette équipe continue à travailler. Et nous le faisons pour être sûr que on apprécie ce que chacun apporte. On essaye de comprendre. Ça ne veut pas dire qu'on ne se dispute pas, ça ne veut pas dire qu'on est toujours d'accord, mais on a vraiment produit jusqu'à maintenant quelque chose qui est un travail honnête, et si on regarde, c'est quelque chose qui est destiné à améliorer la situation telle qu'elle est et les choses telles qu'elles sont actuellement. Donc, les gens essayent d'apporter leurs connaissances pour améliorer les choses, le fonctionnement des choses. Nous avons regardé ce rapport et nous continuons à dire qu'on peut faire quelque chose de mieux. Et la raison pour laquelle nous disons cela, c'est parce que il y a une communauté qui est ici et qui est à l'extérieur de cette salle qui nous dit qu'on peut faire mieux. Hein? Donc, on a pris cela au sérieux. On a dit, nous allons consacrer 6 mois de plus à améliorer cela. Nous continuons à essayer de faire les choses mieux, améliorer ce que nous avons. La communauté attend quelque chose de nous et nous espérons que ce quelque chose sera mieux que ce que nous aurions offert ou ce que nous aurions pu fournir au mois de novembre, par exemple. Et je suis sûre que c'est un système qui sera meilleur que celui que vous avez aujourd'hui. Et je suis d'accord avec Michele lorsqu'il dit que les personnes vont peut-être être mécontentes, mais je pense que, et de mon point de vue, il y a beaucoup de choses que mes collègues de IP quand ils vont les voir, vont se demander, mais comment ça s'est passé, comment on en est arrivé là, mais il y a un équilibre. Hein? Il faut regarder les choses. On va gagner 80% pour les 20% qui vont vous donner du souci. Et je pense que tous ceux qui vont regarder le rapport verront que c'est vraiment une tentative qui vient de gens qui ont lutté pendant 1 an et demi pour faire mieux. Et donc, basez-vous sur les 80% qu'on gagne et pas sur les 20% et que l'on perd ou qui ne vous paraît pas correct. Hein. Ce système doit être amélioré et... Je pense que vous avez entendu Stéphanie et Michele qui l'ont dit. C'est quelque chose qui doit avancer, qui doit changer pour de bonnes raisons. C'est quelque chose qui est nécessaire. et j'espère que nous y parviendrons. Voilà, c'est mon point de vue. Et de toute façon, je voudrais dire que je suis très orgueilleux de ce groupe pour le travail qu'il a fait et pour les efforts qu'il a fait pour se comprendre et pour améliorer donc le système tel qu'il existe actuellement. Merci. Fabricio Rod Rasmussen, vous avez la parole. Bon, mes observations sur le travail de l'EWG, je dirais que je suis d'accord avec ce que mes collègues ont dit, essayer de faire mieux, essayer d'améliorer les choses telles qu'elles sont. Je suis convaincue que le travail de l'EWG est nécessaire puisque tout le monde était mécontent du système tel qu'il existe actuellement. Et on sait, de par d'autres exemples qui ont été donnés, hein, qu'on peut faire mieux. Il y a des intérêts et enjeux qui sont concurrents les uns envers les autres. Alors comment faire, hein? Parce que finalement, la raison pour laquelle j'ai dit que j'allais entreprendre ce travail, c'est pas seulement parce que je représente la sécurité ou les forces de l'ordre ou ce type de choses. J'ai cette expertise, c'est vrai, mais c'est surtout parce que je voudrais savoir comment rendre l'Internet plus performant et plus fiable, que les gens puissent avoir confiance dans l'Internet et communiquer, faire tout ce qu'ils veulent sur l'Internet. Et lorsqu'il s'agit de l'attribution ou l'affectation des ressources ou de la responsabilité de la transparence, toutes ces choses que ICANN a donc stipulé dans ses affirmations d'engagement, hein, comment est-ce qu'on assure qu'une personne qui utilise l'Internet, hein, c'est pas seulement une affirmation d'engagement, hein, pour l'ICANN, mais cela représente la communauté qui représente nous tous les utilisateurs. Donc publier certaines choses et ensuite les faire appliquer, il s'agit de cela. Alors comment affronter ces problèmes et comment le système de nom de domaine a été donc organisé du point de vue de la sécurité? On a mis une série de patchs, on a couvert les choses pour protéger les utilisateurs de certaines choses qui se passent sur l'Internet. Alors comment est-ce qu'on aborde ce problème? Mon observation du groupe en tant que groupe, hein, je dois dire que c'est un groupe qui a beaucoup d'expérience et qui a beaucoup appris. On a beaucoup appris les uns des autres sur les lois de confidentialité, les opérations de registre, sur tout ce qui existe. Hein, et l'expertise de chacun des membres de ce groupe. Et je pense que tout le monde, hein, le reconnaît. Moi, j'ai apporté mon expertise, comment les gens abusent de l'Internet et du système d'enregistrement. Et d'une façon que certaines personnes ne connaissaient pas, hein, lorsqu'on dit « je veux protéger la confidentialité », mais dans le domaine de la protection de la confidentialité, il y a une série de choses que l'on ne connaît pas. Donc voilà, on a beaucoup appris les uns des autres, je dirais, et on a fait un bon travail, on a fait du bon travail. Voilà, on a dit « ok, c'est ce que nous devons faire ». On va s'occuper de ces différents aspects, de ces différentes préoccupations que nous allons aborder. Comment le faire d'une façon juste, hein, extensible aussi, quelque chose qui pourrait, à la fin de la journée, devenir un système qui pourrait devenir automatisé, qui doit être supporté par des serveurs informatiques, des ordinateurs, et puis par une série de personnes qui permettent au processus de continuer à être organisé, les contrats, les personnes qui sont responsables des différentes politiques, des contrats. Donc, il faut faire un équilibre entre tout ça. Et je pense que ce que nous avons fait en tant que groupe, hein, j'espère vraiment, et moi, j'ai pris du temps sur ma vie personnelle, hein, et j'ai aussi beaucoup appris et j'espère que le reste de la communauté pourra apprendre ce que nous avons appris pour mieux apprécier tous les aspects hein, de ce problème. Parce que c'est plus facile de dire, OK, on a besoin de faire quelque chose. Et voilà, il y a différentes façons de le faire. Voilà. Merci, Rod. Carlton Samuels reprend la parole. Nous avons des personnes ici qui participent à ce groupe et qui voudraient savoir ce que le monde a fait, la conversation qui existe dans ce domaine. Et je voudrais, James, que vous nous donniez votre opinion là-dessus. J'espère que Stéphanie pourra nous donner un petit peu son opinion. Je n'ai pas vraiment beaucoup de visibilité sur ce qui se fait au niveau du groupe de l'EVG. Et j'avais des questions portant sur cette idée d'une recherche sur un annuaire est une recherche à deux voies. Hein, j'ai un compte de Facebook. Je ne sais pas qui c'est qui peut regarder ma page de Facebook. Hein. Et la même chose pour les emails. On sait qu'il y a des personnes qui regardent nos emails. Et la même chose. Voilà. Est-ce que le groupe de l'EVG peut nous apporter quelque chose, EWG peut nous apporter quelque chose à ce point de vue? Est-ce que je peux répondre à cette question? Stéphanie Perrin reprend la parole. Nous devons. Nous allons avoir ici une discussion avec les forces de l'ordre, parce que lorsqu'ils font une enquête, il va y avoir des discussions difficiles dans ce domaine, mais il est possible de construire, de faire disparaître les traces. Je crois vraiment dans la technologie. Je pense que la technologie est capable de résoudre ces problèmes. C'est peut-être, cela sera peut-être à un coût élevé, mais donc ce que Stéphanie dit, c'est que le budget d'ICANN doit augmenter de 40% l'année prochaine, et si c'est le cas, ce sera sa faute. Bien. Michele, vous voulez répondre? Oui, je pense que Stéphanie a vraiment a bien répondu à la question. Le système, quelque chose que personne n'a dit, c'est que nous faisons des recommandations qui sont non contraignantes au conseil de l'ICANN. Il y a un processus de politique ou de nombreux processus politiques. Tout le monde doit participer à ces processus politiques. Par conséquent, nous vous demandons de ne pas penser que notre contribution va être la réponse. Il faut que ce soit une des suggestions polies, mais ce ne sont pas des ultimatums. Voilà, c'est important qu'on le sache. Pour répondre à cette question, Carlton, je dirais que d'après ce que j'entends ici, il y a un grand espace entre le travail de l'EWG et d'autres choses. Ce sont des principes sur lesquels nous nous sommes focalisés. Nous croyons dans une sous-série de principes de ce type dans le contexte de la structure de données existantes et du service commercial existant. Nous abordons ces problèmes de ce point de vue. Donc, j'espère que nous sommes en ligne avec les principes. James, je pense que c'était ma prochaine question. Certaines discussions portent sur l'accès. Qu'est-ce que vous faites avec les gens qui ne veulent pas que l'on ait accès à leurs données? Qu'est-ce que vous faites avec les raisons légitimes et les demandes d'accès? Des fois, certains, pour moi, de ces questions sont des questions de haut niveau. Question très importante. Cathy avait demandé la parole. Merci. C'est intéressant de voir que nous avons ce problème aussi dans l'équipe de révision de Ruiz. Et donc, contrairement à l'EWG, nous soutenons ces études. Hein. Nous sommes un peu jaloux de cette approche que vous avez à zéro. Pour notre groupe, c'était trop compliqué. Donc, je pense qu'ici, il faut être très prudent. Hein, et en ce qui concerne les résultats de l'EWG, hein, on ne bloque pas le groupe de travail d'accréditation du proxy de confidentialité, mais à la fin de la journée, on veut essayer de voir quelles sont les meilleures parties de chacun de ces résultats et essayer de les adapter pour les prochains PDP, la GNSO et le processus de développement de politique qui va suivre. Donc voilà, c'est mon avis. On ne va pas bloquer les choses, mais on va essayer d'en prendre les meilleurs éléments. Merci. Carlton Samuel, s'il ne nous reste plus que 25 minutes, je voulais vous demander... Et je voulais voir si on pouvait avoir des questions des membres qui sont présents dans la salle. Alan? Je vois Alan, je vois Evan. Est-ce que quelqu'un d'autre veut poser une question? Alan Greenberg? Trois questions, trois commentaires concernant les proxys de la confidentialité. Il est intéressant d'entendre ce qui se passe dans le groupe de l'EWG et en fonction de ce que donnera ce processus, le besoin pour les services de confidentialité de proxy sera inférieur et dans la mesure où on aura encore besoin, les détails seront différents. Donc, je m'inquiète parce qu'on va avoir un système d'accréditation de proxy de confidentialité qui sera peut-être pas nécessaire. Ça, c'est le premier commentaire, puis j'en ai deux autres. Ou première question, et j'en ai deux autres. Alors. On a eu une discussion avec une... Et je pense que les besoins pour les services de confidentialité de proxy vont augmenter, au contraire, parce que même si on applique les systèmes de protection de données en ligne, même si vous avez des crédentiels de sécurité pour les personnes qui ont des risques, c'est quand même, on a une petite sous-série. Il reste encore les petits business, le nombre qui augmente. On a vu ce matin dans la cérémonie d'ouverture, les femmes qui travaillent de chez elles, par exemple, elles voudraient des services de confidentialité de proxy pour leur business. Donc, c'est dans cet aspect des choses qu'il faut aborder le problème. Et puis, le service de confidentialité de proxy est un tampon, offre un tampon dans le domaine de la protection. Donc, il y a peut-être des contenus qui ne nous intéressent pas. Moi, j'ai moi-même une petite entreprise et je voudrais pas avoir de problème dans ce sens. Donc, si on laisse de côté tout cela, et je pense que ce sont des services importants et les services de confidentialité et de proxy peuvent vraiment répondre à ces besoins. Je ne faisais pas une déclaration, j'observais que les besoins vont peut-être changer avec le temps. Ma deuxième question, et cela a été dit tout à l'heure, il y a un grand nombre d'avocats qui, au nom de leurs clients, vont enregistrer des domaines et vont agir comme proxy. Est-ce que l'on s'attend à ce que chacun d'entre eux soit accrédité par ICANN avant qu'ils offrent ces services au nom de leurs clients? Est-ce que c'est une attente réaliste? C'est une très bonne question. C'est quelque chose qui a été déjà dit. Lorsque l'on considère les choses du point de vue du bureau d'enregistrement, surtout, par exemple, une personne qui n'est pas affiliée, un service proxy qui n'est pas affilié, qui n'est pas accrédité, par exemple, si l'on contacte un registrant qui a des problèmes avec un nom de domaine, il va nous dire « je vais contacter mon client ». Il faut regarder ce type de choses, il faut regarder ce compte-là dans le cadre du RAA. Ce n'est pas une question ici de discussion, c'est quelqu'un qui parle, qui travaille au nom d'un tiers. Et je pense que c'est une question intéressante. Je ne sais pas quelles sont les attentes, mais je pense que les attentes sont du côté des bureaux d'enregistrement qui ne vont pas accepter l'enregistrement de ces firmes si elles agissent en tant que proxy. En tant qu'avocat et d'une compagnie, ils vont prendre une responsabilité pour ce que fait cette compagnie. Et ce que je pense, c'est qu'un avocat non accrédité et va faire les choses en leur nom et va prendre la responsabilité de ce qui peut se passer en résultat de cela. Et donc, ce n'est pas un proxy. C'est pas seulement... C'est quelqu'un qui dit, faites-le. Ma dernière question et c'est quelque chose qui m'a surpris. Je me trompe peut-être, mais si l'on fait un procès à l'UDRP, cela est publié dans les résultats, même si l'UDRP est retrouvé, considéré par le registrant, et même si cela est un UDRP frivole, si vous voulez trouver qui est cette personne, vous devez passer par l'UDRP, et le fournisseur d'UDRP va devoir présenter un rapport. Donc, à moins que les services de proxy de confidentialité disent « j'assume la responsabilité pour toute action », cela sera révélé. Carlton Samuels reprend la parole. Nous avons eu des discussions au sein du groupe de l'EWG à propos des... La discussion que nous avons eue hier, par exemple, était liée aux révélations de l'UDRP. Il me semble que c'est quelque chose qui ne doit pas être réglé au niveau des services de confidentialité de proxy. C'est le rôle de l'UDRP. Une des raisons pour laquelle je ne suis pas d'accord ici avec cela, Alain, c'est que tous les services UDRP n'ont pas exactement les mêmes processus pour ce type de règles. Donc, ce n'est pas seulement un problème de l'UDRP ou un problème de confidentialité de proxy, c'est aussi un problème de règlement. C'est un des problèmes qui est arrivé, hein. Mais je me trompe peut-être. Les exigences sont cohérentes, en tout cas. Cathy, oui, je voudrais seulement souligner que lorsque l'on a rédigé l'UDRP, c'était bien avant l'évolution des services de confidentialité de proxy, avant qu'ils existent. Et donc, et la question de harcèlement, de frivolité, tout cela, hein, on doit donc aborder ce problème. Rod, bien. En général, je dirais que et en ce qui concerne le WG et les groupes qui travaillent sur ce type de choses, il y a beaucoup. Il y a une liste de 4 ou 5 groupes qui travaillent sur les politiques liées à cela et nous essayons vraiment de créer un cadre et offrant des bonnes suggestions qui offrent quelque chose d'applicable dans l'espace en général, hein, de l'Internet. Et j'espère que nous avons vraiment abordé ces problèmes. En général, je dirais que les PDP et le travail de politique qui est fait est focalisé sur des points spécifiques. Nous essayons de créer un cadre, hein, de façon à fournir une certaine façon quelque chose qui puisse évoluer, hein, dans le temps, hein. Et donc je dirais que en particulier le PDP doit continuer à analyser tout cela. Nous sommes conscients qu'il faut aborder tout cela. Il y a eu des discussions dans le groupe, mais finalement, nous devons penser à un cadre qui, quelles que soient les recommandations politiques, un cadre qui puisse répondre à toutes ces difficultés. Donc, je pense que c'est important d'en tenir compte. On n'essaye pas de résoudre tous les problèmes des PDP. Il y a une série d'autres difficultés. Il y a beaucoup de choses qui ne sont pas résolues. Donc, il y a un concept selon lequel on discute. Les discussions dans ce domaine, le fait d'avoir un contact légal avec un domaine, par exemple, hein, avec un propriétaire de domaine ou avec l'idée et l'organisation qui est responsable de façon à ce que les gens puissent résoudre ce type de problème sans devoir révéler les données d'un registrant ou d'une personne affiliée. Carlton Samuels, est-ce que je peux donner la parole à Evan maintenant? Oui, allez-y. Oui, merci. Evan Lebovitch, membre de l'AC. Ma question, est destiné aux membres du groupe de travail de l'EWG. Est-ce que vous êtes satisfait? Et il y a deux cas spécifiques. Est-ce que vous êtes satisfait du fait que le problème d'information de contact incorrect va être supprimé? C'est une des choses qui, du point de vue de At-Large, est un véritable problème. Le problème de la confidentialité a été appliqué en donnant des informations fausses. Et nous espérons que maintenant que vous êtes en train de travailler avec ce service de confidentialité de proxy, ça va permettre aux gens d'avoir un niveau d'anonymat, mais en même temps de donner des informations de contact justes, correctes. Vous aurez encore des informations de WHOIS qui seront incorrectes et la force de la loi pourront agir dans ce sens-là. Les règles, donc, les données de contact WHOIS fausses seront quelque chose sur lequel on pourra agir. Il y a quelque chose qui était une question théorique, mais qui s'est avéré ne pas l'être, porté sur la protection des marques et sur la protection des consommateurs. Et c'est dans le cas des TLD comme .wtf et autres, dans lequel, il y a quelques années à Bruxelles, on a dit que c'était des candidatures légitimes. Et donc, on peut avoir des enregistrements dans ce type de domaine qui pourraient mettre en danger les marques. Mais est-ce que les services tels qu'ils sont anticipés permettent d'être capables de faire des recherches sur ces domaines?
Eh bien, croyez-moi, cela fait un petit peu peur, me semble-t-il. Je ne sais pas si je veux rentrer dans ce débat ou dans ce sujet. C'est très complexe. Je crois que, et j'y réfléchis encore, c'est un choix entre révéler ces informations, les publier. Et il faut qu'il y ait un processus de vérification, mais en fin de compte, lorsque quelqu'un change quelque chose, change des données, on le sait uniquement une fois qu'on a contacté ces personnes. Ça peut prendre du temps, le temps de contacter ces personnes. Il y a des gens qui vont passer le test de vérification, mais qui vont changer certaines données. Je ne sais pas comment gérer cette situation. C'est extrêmement difficile. Je crois que si on vous indique qu'il y a un problème, vous avez un avis, une notification de problème. Est-ce que vous pouvez dire c'est incorrect, je ne vais pas révéler les informations, mais je vais totalement fermer les services et fermer donc les services d'accès? C'est une solution viable. Vous avez dit à quelqu'un, nous n'allons pas révéler vos informations, nous protégeons la confidentialité de vos informations. Mais en même temps, nous vous avons retiré de l'Internet. Donc c'est une question que je pose. Vous voulez réagir à ce sujet? Oui, j'aimerais répondre à la première partie et à ce qu'a dit Evan également. Il me semble qu'on peut découpler un petit peu les deux problèmes. Est-ce que les données WHOIS sont complètes ou pas? Cela s'applique principalement à WHOIS, je crois. Je ne sais pas ce qu'en pense le groupe de travail d'experts. Selon moi, on peut mettre cela dans différentes parties séparées. S'il y a un WHOIS invalide, ça peut être très bénin. Ah bien, est-ce que vous allez mettre mon numéro de téléphone sur l'Internet? C'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ou bien je veux mettre n'importe quel numéro de téléphone. Ou bien c'est plus malicieux, plus néfaste. Quelqu'un qui essaye véritablement de se livrer à des activités criminelles. Donc il me semble que le groupe de travail d'experts s'est penché là-dessus et qu'il y a des études qui ont été faites sur les noms de domaines de pays. Si les informations sont sûres, sont protégées, sont validées, l'aspect bénin du WIS invalide qui ne veulent pas être gênés, qui ne veulent pas recevoir de spam, eh bien, je crois qu'avec le temps, cela va se résoudre. Mais les activités illicites, pas seulement les méchants, mais également les méchantes. Et je crois que Roth, qui travaille dans la sécurité, qui fait partie des forces de l'ordre, a des opinions là-dessus et va beaucoup plus vite que l'ICANN, doit réagir. Il y a des activités illicites très graves qui se déroulent sur l'Internet. Et même si l'on met des filtres, ces malfaiteurs sont très intelligents, travaillent d'une manière très astucieuse. Je crois que l'aspect bénin, on va réussir à avoir des données plus précises, mais pour l'illicite, là, les données qui sont volées, je crois qu'en effet, le problème va se poser et que ce seront des données qui apparaissent tout à fait valides, mais qui sont des données volées, qui ont été volées sur l'Internet. Donc, je crois qu'on peut dire que ce n'est pas véritablement quelque chose sur lequel travaille ce groupe d'experts, mais je crois que dans le contrat, le RAA, le contrat d'accréditation du bureau d'enregistrement, à l'avenir, va se pencher beaucoup plus sur ces problèmes d'activité illicite et de cybercriminalité. Oui, j'aimerais rebondir sur ce qu'a dit Evan et répondre à sa question. Je crois que dans le groupe de travail, à l'EWG, nous pensons au concept de responsabilité. Qui est responsable? Quelqu'un doit être finalement responsable de tout cela. Si vous enregistrez un nom de domaine, peut-être que vous ne connaissez pas bien la technique, l'informatique, mais quelqu'un qui travaille pour vous connaît les technologies de l'information et doit être la personne contact, parce que vous recherchez quelqu'un qui va répondre plus qu'autre chose. Je peux vous envoyer du spam par pigeon voyageur, si je le veux. Je ne peux pas vous obliger à répondre. C'est absolument impossible. De notre côté, ce qu'on a vu, c'est que des personnes qui supposent qu'un manque de réponse équivaut à un problème. Ce n'est pas vrai. En 2013, dans le RA 2013, il y avait des spécifications et nous y avons réfléchi avec notre groupe d'experts pour ces problèmes posés par le proxy. Est-ce qu'il y a une obligation de réponse, par exemple, à une marque commerciale? Nous avons ce concept. Peut-être qu'en effet, des personnes peuvent utiliser un proxy pour qu'ils ne puissent pas être trouvés ou pour protéger leur marque commerciale. Mais en fin de compte, qui est responsable? Qui va prendre la responsabilité? Donc, soyez prudents. Arrêtez de traiter le WHOIS pour remédier à tous les problèmes du monde. Combien d'entre vous a déménagé ces 10 dernières années? Combien d'entre vous a... Oui, voilà un bon exemple. Combien d'entre vous a été des réunions ICANN et a pris des cartes SIM pour vos téléphones? Les coordonnées changent beaucoup. Donc, si on force tout le monde à voir cela en noir et blanc, c'est pas la bonne approche. Une approche plus intéressante, c'est, regardez, securitymain.org, c'est très intéressant. Il y a des personnes dans notre secteur industriel qui ont les mêmes inquiétudes que vous. Mais je crois qu'on peut trouver des réponses qui sont différentes que celles du WHOIS. Maria, vous avez la parole?
Oui,
Maria Farl. Je suis conseillère au GNSO, consultante. J'utilise Internet beaucoup. Et mon point de vue, que je n'entends pas souvent de At Large, c'est qu'en tant qu'utilisatrice de l'Internet, je ne veux pas que mes données personnelles soient sur le Whois. Et c'est pour ça que je vais travailler avec Michele. Et je vais utiliser les CC. Je vais devenir une cliente de Michele. Donc, je travaille à un blog avec beaucoup d'utilisateurs et de lecteurs de ce blog. Et je peux vous dire que si j'écris un post de blog sur le féminisme ou sur une question politique américaine, on va me menacer de viol très rapidement. Ça arrive très fréquemment. Pourquoi ? Il y a des problèmes très important pour les femmes sur l'Internet. Lorsque j'écris ces posts, nous modérons les commentaires et c'est souvent des lecteurs, pour la première fois, envoient ces menaces, ce harcèlement envers les femmes qui écrivent sur l'Internet. Ça peut être vraiment, vraiment abominable. Donc, est-ce que vous croyez que je vais mettre mon numéro de téléphone, mon adresse, ainsi de suite, sur l'Internet pour tout le monde, pour que ça soit totalement public? C'est pour cela que je veux pouvoir protéger ma confidentialité. Je ne suis pas une ONG, je n'ai pas des abris pour les femmes victimes de violences, non. Mais je veux simplement pouvoir exprimer mon opinion sans être harcelé sur l'Internet. Donc, c'est important. Ce que j'entends souvent, c'est que un nom de domaine est un privilège. Et que si vous n'avez pas de nom de domaine, si vous ne donnez pas vos données personnelles, vous ne pouvez pas avoir de nom de domaine. Je suis désolé. C'est un privilège qui me paraît un petit peu spécieux. Et si vous êtes une femme qui veut s'exprimer sur l'Internet, nous devons réfléchir à cela. Nous voulons avoir une plateforme où nous pouvons mettre nos données. Voilà ce que je voulais dire, simplement, en tant qu'utilisatrice de l'Internet. Et je crois que c'est une question très importante qui se pose, et je ne suis pas la seule. Merci beaucoup. Nous avons 5 minutes supplémentaires. Fab aura le dernier mot. Donc, soyez bref, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Monsieur le Président, je m'appelle Katie Yang. Je suis de l'IFPI. Et je représente également le RA. Je crois comprendre que on a soulevé des points importants. L'aspect bénin des problèmes des utilisateurs qui veulent avoir des informations privées qui ne sont pas sur l'Internet. Mais je crois que notre secteur industriel pense qu'il y a une validation des informations qui est importante. Il y a des personnes qui se cachent derrière des adresses Internet. Et il y a beaucoup d'activités illicites en ligne, comme vous le savez. J'étais avec le ministère de la Justice à Singapour. Nous avons eu beaucoup de dollars. Et notre secteur industriel a beaucoup souffert de cela. Parce que beaucoup, beaucoup de malfaiteurs utilisent l'Internet. Nous avons donc besoin d'un processus. Il faut prendre cela en compte. Il faut avoir des informations valides. Et si les informations changent, en effet, si j'utilise cela pour me cacher, pour faire des activités illégales, eh bien, il est absolument impératif qu'on ait un système qui nous permette de fermer peut-être les services, comme cela a été dit, pour que nos intérêts soient protégés. Merci. Merci beaucoup, Fab. Vous aurez le dernier mot. Merci, Carlton. Je suis très heureux que vous vous êtes exprimé, Marie. J'ai beaucoup apprécié votre intervention et votre honnêteté. Moi, je suis avocat spécialiste de la propriété intellectuelle et j'ai travaillé avec beaucoup de femmes qui ont dû retirer, en effet, leurs données personnelles pour se protéger. Il y a des personnes qui envoient des menaces terribles, comme vous l'avez dit, par courriel. Donc, cela m'a toujours surpris, c'est scandaleux. Je crois que vous nous avez parlé d'exemples concrets, et c'est pour cela que nous devons nous battre pour satisfaire tous ces besoins. Et est-ce que nous sommes satisfaits de la situation, des résultats actuels? On a entendu Rod, entendu Mekele, on fait simplement pour le moment des recommandations et on ne peut pas être satisfait du résultat final parce qu'on ne sait pas encore ce qu'en pense la communauté. Moi, je suis satisfait du fait que nous prenons en compte ces expériences et que nous tentons de créer une atmosphère qui va résoudre ces problèmes, une atmosphère où les gens soient à l'aise sur l'Internet. Lorsqu'ils utilisent un nom de domaine, lorsqu'ils expriment une opinion, ils se sentent en sécurité. Et qu'il y ait une responsabilité, vos informations personnelles ne seront pas divulguées, vous aurez droit à une confidentialité. On y travaille beaucoup. Une fois qu'une personne a été acceptée, une fois qu'il y a une raison pour laquelle il y a une demande d'accès aux données personnelles, là, si nous avons bâti une atmosphère positive dans ce cadre, là, les personnes pourront mettre leurs données personnelles. Mais il faut trouver le bon équilibre pour l'accès aux données personnelles. Merci beaucoup de tous les points de vue qu'on a entendus cet après-midi. Je crois que vous avez réaffirmé ce que nous essayons de faire et de mettre en place. Oui, eh bien, je vais arrêter les débats, dit Holly Watch, parce qu'il y a une autre réunion qui va se dérouler. J'aimerais remercier tout le monde pour ce débat très intéressant. Je crois que les problèmes sont pas encore résolus. Il y a quelques idées de résolution. Ça a été un débat vraiment intéressant. Cet après-midi, nous allons maintenant avoir une séance à 5h. À 17h, nous aurons une séance qui va suivre sur TOR, sur TOR, sur les mécanismes d'attribution de noms de substitution à la DNS. Cela se déroulera de 17h à 18h. J'aimerais beaucoup remercier Steve, Stéphanie, Cathy, Michele et Stéphanie, Rod et Fabricio. Donc, merci à nos intervenants. J'espère que je n'oubliais personne, oui. Donc, excusez-moi, Carly. Il y a une question sur l'Internet. Ah oui, un instant, donc, s'il vous plaît. C'est peut-être le vrai Steve. Il y a des personnes qui doivent nous quitter, je crois. Oui, merci beaucoup à toutes et à tous. Merci aux interprètes également. Une note très rapide. Ce groupe de travail va avoir une réunion ouverte à jeudi à 9h. Donc, venez nous voir si vous le désirez, si vous avez des questions, si vous voulez travailler avec ce groupe de travail.
Okay, ladies and gentlemen, there is an announcement.
Mesdames et messieurs, nous avons un avis en ce qui concerne Atlantis, la commission consultative de Atlantis. Il s'agit du résultat de la deuxième partie des élections, de la sélection pour le membre du conseil d'administration. Tijani Benjema va nous donner les résultats de ce vote qui nous permettait de départager deux candidats ces dernières 24 heures. Tijani Benjema, vous avez le micro. Eh bien, en effet, ce vote départage a donné les résultats suivants. Alan Greenberg a gagné. Donc maintenant, nous allons passer au vote final. Je l'espère que ce sera le vote final et qu'il n'y aura pas encore des ex-échos au nombre de voix. Qui sera entre Renalia Abdulrahim et Alan Greenberg. Merci beaucoup, Tijani. Benjema, nous avons eu beaucoup d'ex-échos, donc cette fois, j'espère que ça va se départager. Eh bien, on revotera. Et si ça ne marche toujours pas, à ce moment-là, on fera un tirage au sort. Eh bien, j'espère qu'on n'arrivera pas à cela, parce que sélectionner un membre du conseil d'administration par un tirage au sort, ça me paraît un petit peu bizarre. J'espère qu'on n'arrivera pas à cela. Donc, quand est-ce que ça recommence le vote ? Aujourd'hui même. Et cela se terminera mercredi, comme on l'a dit hier.
Thank you, Cheryl.